sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos.
Sur les chemins de l'exil. Une série documentaire de résonance sonore. Max Aoub, l'exilé. Épisode 2, la France où l'espoir trahit. Nous avons dépeint, avec Gérard Malga, docteur en langue et littérature espagnole, la première partie de la vie de Max Aoub. Intellectuel, militant socialiste engagé pour la République espagnole, il se réfugie en 1939, après la victoire de Franco, dans son pays natal, la France. Une France qu'il pense être une terre d'exil, le pays des libertés et des lumières, comme beaucoup de républicains espagnols. Cet épisode retrace une réalité tout autre. Le destin de Max Aoub met en lumière les injustices perpétrées par la France contre les défenseurs de la République espagnole, considérés pour la plupart comme des hommes politiques dangereux, à surveiller et à isoler. La désillusion est totale, brutale. De multiples séjours en prison à des internements successifs, une seule issue, l'exil encore. Gérard Malga, grâce à ses nombreuses recherches, retrace le retour de Max Aoub en France et sa traque par les forces de l'ordre.
Pendant quelques mois, il se réinstalle à Paris, qui est sa ville natale, en sachant que pour y rester, il doit avoir une autorisation de résidence dans le département de la Seine. On ne s'installait pas comme ça dans le département de la Seine quand on était républicain espagnol. Il fallait le feu vert des autorités françaises. Les autorités françaises qui, entre parenthèses, dès 1938, commencent une politique de méfiance et même de répression contre les étrangers considérés à partir de cette époque comme des personnes indésirables et du point de vue du travail et du point de vue de leurs orientations politiques observées, contrôlées avec beaucoup de méfiance.
Max Aoub à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance l'autorisation de séjourner dans le département de la Seine. Ma situation est la suivante. Écrivain de profession, j'ai été attaché à l'ambassade d'Espagne à Paris à titre d'attaché culturel en 1936 et 1937. Et de ce fait, j'ai toujours eu depuis lors un domicile à Paris. Nommé en 1938 secrétaire du Conseil central du théâtre par le gouvernement de la République espagnole, j'ai eu l'occasion de faire de nombreux voyages de France en Espagne, nanti du passeport diplomatique numéro 20. Rentré définitivement en France le 29 janvier 1939 avec un passeport officiel numéro 27, visé à l'ambassade de France à Barcelone et au commissariat de Cerbère, j'habite le 7 rue du Capitaine Ferber à Paris avec ma femme et mes trois enfants. Mes moyens d'existence sont assurés d'une part par mes travaux littéraires et artistiques, d'autre part par mon père, industriel à Valence.
Son passé de diplomate a laissé des traces. Pendant ce qu'il était mission à l'ambassade d'Espagne à Paris, bon, il avait son activité officielle, au pavillon espagnol notamment. Mais le soir, il allait à des meetings, il participait à des groupes de solidarité avec l'Espagne. Il faisait des quêtes le 1er mai 1937, par exemple, il est dans la rue, il y a une immense manifestation à Paris, et il est dans la manifestation. Tout cela est surveillé par la police, est l'objet de fiches de police. Et comme en plus, donc, il est ami avec Malraux, compagnon de route des communistes à l'époque, il est ami avec Picasso, considéré comme pro-communiste, il est ami avec d'autres, André Chanson, Léo Lagrange, des personnalités du Front populaire, donc il est surveillé de près, et ses rapports ne vont pas être oubliés, loin de là. Pendant quelques mois, il vit normalement, entre, disons, février 39 et puis avril 40, hein. Mais en février 1940, une dénonciation a été déposé sur le bureau de l'ambassadeur, qui désormais est évidemment franquiste, et cette dénonciation fait de lui un communiste, un terroriste, un révolutionnaire capable de coups de main armée et un juif.
Max Aoub.
Juif. Nationalité allemande.
Nationalisé durant la guerre civile.
Activité.
Communiste et révolutionnaire activiste.
Surveiller sa présence en France.
Attirer l'attention de notre ambassadeur sur lui
en tant que sujet dangereux.
Dire
au consul
qu'il ne lui donne pas de visa
et qu'il récupère son passeport
s'il se présente.
Avertir Madrid.
En avril 40, suite à cette dénonciation anonyme sur un trottoir parisien, il est interpellé par la police française le 5 avril 40.
6 avril 1940, Aoub Max, né le 2 juin 1903 à Paris 9e. De Frédéric et de Suzanne Norenwitz, nationalité espagnole, a été arrêté hier à son domicile, 9 rue du Capitaine Ferber, 20e. Comme suite aux instructions contenues dans la circulaire suivante. Circulaire chiffrée. Je suis informé que la présence sur notre territoire du nommé Max Aoub, israélite allemand, naturalisé espagnol par autorité républicaine pendant la guerre civile, serait un communiste très dangereux. Prière faire procéder urgence toute investigation utile en vue de retrouver la retraite du sus nommé. En cas de découverte, gardez à vue et m'aviser d'urgence. À ce jour, il a été dirigé sur le camp de Roland-Garros à la disposition de la Sûreté nationale. Max Aoub n'est pas noté au sommier judiciaire. Doit-il être compris dans le prochain convoi pour le camp du Vernet prévu pour le 21 mars 1940 ?
Et commence 2 années d'internement successifs, de séjours en prison, pour donc un certain nombre d'accusations qui ont été notifiées par des rapports de police et qui, en gros, inventent un Max Aoub. Là, c'est vraiment fascinant de voir, moi, au fil de mon travail sur Max Aoub, j'ai mis à jour des rapports de police qui ont été conservés, certains étant conservés à Paris, mais d'autres étant conservé à Moscou, puisque les archives de Paris ont été volées par les Allemands. Et ensuite, en 1945, les Russes, faisant la conquête de Berlin, ont emmené ces archives à Moscou. On appelle ça le fonds russe. Petit à petit, bon, j'ai mis à jour ces rapports de police disséminés et qui sont fascinants, parce qu'on voit qu'au fil des rapports qui sont copiés les uns sur les autres, mais bon, on ne peut pas copier seulement un rapport, il faut un peu inventer quelque chose de nouveau. Donc, c'est-à-dire que la police invente littéralement un Max Aoub très, très dangereux.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai appréhendé ce jour vers 8h en sa chambre de l'hôtel Alhambra, boulevard de Cimiez, le nommé Aoub ou Aoub Morenwitz, Max.
AS de nommer Aoub Max à la demande du ministère de l'Intérieur, 28 juin 1941. Aoub Max, de race juive de nationalité espagnole, né à Paris le 2 juin 1903, de Frédéric, qui serait de nationalité allemande, et de Suzanne, qui serait française, a été vainement recherché.
Aoub a été signalé comme communiste par un rapport en date du 6 août 1937, établi à la suite d'une réunion tenue par le groupe Savoir le 11 juin 1937 à la maison de la Mutualité rue Saint-Victor sous la présidence d'André Violis et au cours de laquelle il aurait pris la parole.
Il aurait dû quitter l'Espagne par suite de la victoire du général Franco et serait revenu se réfugier en France, à Paris, où il aurait résidé 7 et 9 rue du Capitaine Ferber.
Il a présenté comme pièce d'identité un récépissé de demande de carte d'identité d'étranger, numéro 002 80 100, délivré à Marseille le 7 décembre 1940.
Nantie du passeport espagnol numéro 27, délivré à mention, valable pour l'entrée et la sortie de France pour une durée de 3 mois.
Vu et transmis à monsieur le commissaire central, il aurait mieux, à mon avis, de prononcer d'urgence l'internement de l'intéressé, ou tout au moins en attendant la décision intervenir.
Avant d'aller à l'adresse actuelle, par la négation du Mexique,
enfin, il a été signalé par la circulaire spéciale de l'Intérieur, numéro 1, délivré le 29 mars 1941.
Il a le privilège d'être interné au camp du Vernet à 2 reprises. Donc il est interné une première fois suite à son arrestation le 5 avril 40. Il est d'abord conduit à Roland-Garros, qui était à l'époque déjà un lieu sportif et notamment un lieu de tennis, mais qui a servi pendant le printemps 1940 comme centre de tri de tous ceux qui étaient arrêtés. Il y a des rafles à Paris dans ce printemps 40, et puis bon, on regroupe sous les gradins de Roland-Garros ceux qu'on va ensuite conduire dans les camps d'internement. Et donc, en mai 40, après une cinquantaine de jours à Roland-Garros, Max Aoub est interné au camp du Vernet. Et là, il va rester jusqu'à fin novembre.
Enterrement au Vernet. L'hôpital sonne la mort. Le chariot gris du ravitaillement porte le cercueil solitaire. Le carrosse sert à tout. Les prisonniers alignés, par trois ou par six au fond, droits, sérieux, nu-tête, en rang, regardent le lent et triste transfert. La cloche sonne le tocsin. Pas lent du cheval, silence de 2000 hommes, demain, un autre passé. Pour l'un d'eux qui est mort, seul, demain, un autre passé. On entend seulement le grincement. Demain, un autre passé. Des roues ferrées sur le chemin. Demain, un autre passé. Et l'âpre croassement des corbeaux. Qui était-ce? Un vieux de haros, suite de nuages qui défilent. On sait de quoi il est mort? Demain, un autre passé. 32 mois de camp. Le gardien dit « repos ». À un autre vêtu de haillons, un prisonnier qui passe, dit en entrant dans le cachot, c'est la vie. Dans les barbelés, froid, le vent déchiré. Un vieux fouille dans des poubelles. Un garde passe en criant.
Donc Max Aoub se sort du Vernet en novembre 40. Il est assigné à résidence à Marseille. Et puis là, il est arrêté de nouveau en juin 41. Il passe trois semaines en prison à Nice. Il est arrêté de nouveau en septembre 41. Il passe un séjour en prison à Marseille. Et de là, de Marseille, il est réinterné une deuxième fois au camp du Vernet. En novembre, décembre 41. Mais là, comme on le juge vraiment dangereux, vraiment à surveiller, etc., il est transféré du Vernet à Djelfa, dans le Haut Atlas algérien, qui est à l'époque une terre coloniale française. Et là, il reste donc dans ce camp de Djelfa, dans des conditions particulièrement dures. 6 mois, de décembre 41 à mai 42. Il écrit d'ailleurs des poèmes au fil de son séjour à Djelfa, de son internement, qu'il réunit dans un livret qu'il publiera peu après son arrivée au Mexique en 42, qui s'appelle « Diario de Djelfa », journal de Djelfa, qui sont des poèmes de, voilà, de la souffrance, de la douleur, de la mort. Il décrit combien des compagnons meurent à ses côtés sans qu'ils puissent rien faire, de misère, de froid, de maladie, d'infection, parce qu'ils vivent dans des tentes marabouts avec 42 degrés le jour et moins 10 la nuit dans ce Haut Atlas. Donc là, il y a un livret de poèmes très, très, très bouleversant.
Tu pues déjà, Julian Castillo. Tu pues déjà, Julian Castillo. À quatre, nous t'avons sorti, raide, pour toujours, sur une triste charrette, portant 20 étoiles peintes, tirée par un canasson blanc, maigrelet et fatigué. Il t'a traîné, en te secouant à travers le village morne, conduit par un phaéton mort, misère de terre et de ciel, murs et toitures usées, douars devenus forteresses, bravoure convertie en troupeau, village défait par le temps, te voyant partir en haillons, entre des cierges tremblotantes. Les curés ont dit leurs oraisons, prières d'une religion contre laquelle tu as combattu. Une faible odeur se dégage et stagne, insistante, autour du cercueil. On pue de la même manière que l'on crève le ventre plein ou que l'on soit mort de faim, comme toi, vieux révolutionnaire.
Il est libéré grâce encore une fois au même diplomate, Gilberto Bosques. Là aussi, j'ai mis à jour toute la correspondance, tout ce que Bosques, ce consul mexicain, met en place avec un réseau d'aide à Oran, à Alger, à Casablanca. Il y a des associations qui œuvrent pour sortir les internés qu'ils peuvent sortir. Et Bosquez, grâce à tout ce réseau, parvient à faire sortir Max Aoub du camp de Djelfa. Max Aoub rejoint Casablanca, mais rate le bateau pour lequel il avait un billet. Il rate à quelques heures près, parce qu'il a été contrôlé à Oujda, à la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Et Max Aoub va devoir rester caché, discrètement, vivre à Casablanca de fin mai à début septembre, pour résoudre les problèmes de trouver un autre billet, un autre bateau, etc. quoi. Et il finit par partir le 8 septembre 1942 de Casablanca, rumbo à Mexico, où il va arriver en octobre 1942. Ce n'est pas son choix, mais il voit que d'internement en prison, il n'y a pas d'autre solution pour lui que de partir au Mexique, comme vont faire beaucoup de républicains espagnols qui vont dans le pays le plus accueillant, qui est le plus généreux envers les républicains espagnols. Donc il se résout contre son gré, mais à partir au Mexique pour sauver sa peau, en fait. Et il s'installe là-bas à partir de 1942. Il vit les premières années en s'installant sur place, en trouvant à survivre. Il fait venir sa famille en 1946, c'est-à-dire sa femme et leurs trois filles. Et en 1951, donc, il se dit « Bon, il faut que je retourne en Europe pour voir mes parents, qu'il n'a pas revus depuis qu'il est arrivé là-bas, au Mexique, en 1942. » Et en 1951, donc, il demande, il sait que son père est malade, que s'il veut le revoir, il faut qu'il se dépêche, il demande un visa de séjour à la France. Surprise, stupéfaction et humiliation, on peut dire. La France lui refuse ce visa d'entrée. Pourquoi ? Parce que les fiches qui ont été produites par la police française à partir de 1939, 1940, enfin même celle de 37, qui étaient des fiches de surveillance quand il était diplomate, eh bien ces fiches n'ont pas été expurgées, continuent d'être dans les tiroirs du ministère de l'Intérieur. Et quand un bureaucrate quelconque est chargé de vérifier qui est Max Aoub, bon, bah, il retombe sur ses fiches. Et il émet un avis défavorable. Et donc, Max Aoub est absolument stupéfait d'apprendre qu'il ne pourra pas rentrer en France. Et donc, il ne vient pas en 51. Son père meurt sans qu'il ait pu le revoir. Et pour lui, c'est profondément, bien sûr, injuste et incompréhensible. Il se dit, mais comment mon pays natal, qui est redevenu démocratique, hein, puisque contrairement à l'Espagne, c'est les alliés qui ont gagné, c'est les démocraties qui ont gagné. Comment mon pays peut me refuser l'accès ? Et de fait, Max Aoub redemande une autorisation d'entrer en France 5 ans après, en 1956. Il a encore des difficultés pour obtenir d'entrer en France. Il obtient un visa pour court séjour, de 15 jours seulement, avec interdiction de voir des républicains espagnols. Ce qui pour lui est le comble. Parce qu'évidemment, ses amis républicains espagnols sont nombreux à vivre en France. D'ailleurs, il passera outre cette consigne, je pense. Mais c'est pour dire que la France, pendant longtemps, a gardé, en fait, comme un espèce de colis de haine dans les rouages de l'État, des dénonciations qui étaient arbitraires, fausses, mensongères, calomnieuses, mais elles n'ont pas été expurgées, ces fiches, très rapidement.
Monsieur le Président, je n'ai jamais rien écrit qui me plaise moins que ces lignes, pour la seule raison que je dois y parler de moi-même. Je vaincrai ma répugnance pour une lutte que je ne veux abandonner à aucun prix. La lutte pour une certaine dignité humaine, contre cette tâche qui dans le monde entier tend à mettre notre époque au plus bas des niveaux qu'a pu connaître l'histoire. La suprématie policière et le royaume de la peur. Je suis écrivain espagnol. J'ai été attaché culturel à l'ambassade d'Espagne en France en 1936 et 1937. Ne faisons pas cas de ma naissance, qui ne fait que donner à l'histoire un certain aspect comique, car je suis né à Paris. J'ai été arrêté en mars 1940, sur une dénonciation probablement anonyme. J'ai eu à connaître des camps de concentration, Paris, Vernet, Djelfa, des prisons, Marseille, Nice, Alger. J'ai été conduit menotté à travers Toulouse pour être transporté, inutile de vous dire comment, à travailler sur les hauts plateaux, aménité réservée alors aux antifascistes. Ce n'était d'autre part rien d'extraordinaire. Ce fut le prix alloué à beaucoup d'Espagnols défenseurs de la légitimité de leur gouvernement. Je le sais, il y a un dossier, et c'est ce qui compte. Peu importe que ce que l'on y assure soit vrai ou faux, cela n'entre pas en jeu. C'est-à-dire que moi, ce que je pense, ce que je suis, n'est pas la vérité. La vérité est ce qui est écrit. Comme écrivain, Je devrais le comprendre comme personne. Ce qui vit vraiment, ce ne sont pas les gens, mais les personnages. Unamuno l'a soutenu avec éloquence. Moi, Max Aube, je n'existe pas. Celui qui respire est ce dangereux communiste qu'un mouchard a dénoncé un beau jour. Il est à supposer que pour justifier une solde. Et celui-là, c'est moi. Et ce n'est pas moi, Max Aube, avec lequel je suis en train de parler et qui très respectueusement vous écrit. Et qu'il fait d'ailleurs avec l'espoir que ce Max Aube de papier puisse vaincre cet autre Max Aube de carton, celui de mon dossier. Être sous l'emprise de la police, des dénonciations, des délations, du mouchardage, de la calomnie, de la fausseté, des murmurations, du plus vil espionnage, vendu à l'attribution, au peut-être, au on dit. Pour des délits d'ordre commun, on exige des preuves. Ici, non. Il suffit d'un souffle. Je me suis réfugié chez vous, presque chez moi, en défense de la légalité. Il est curieux que pour l'avoir défendu, c'est en son nom que l'on refuse de m'y laisser retourner. Le geste machinal de votre bureaucratie est un chaînon insignifiant, mais un de plus qui ligote la solidarité humaine. Voulez-vous le corriger ? Je ne demande pas miséricorde. J'ai subi patiemment les injustices, car elles n'avaient pas alors de remède, mais au nom de certaines choses qui, je voudrais croire, nous sont encore communes, je vous demande de rectifier cette erreur personnelle. Il n'est pas bon de se taire à tant d'offenses, et ayant mon mot à dire, je le dis.
Max Aube, il a écrit toute sa vie. Il était vraiment un passionné de l'écriture et il écrivait sans cesse, et il écrivait partout. Et d'ailleurs, dans les camps, il continuait à écrire. C'est-à-dire qu'il avait toujours sur lui un crayon, un petit carnet, un cahier d'écolier où il écrivait. Et dans la plupart des cas, il a réussi à sauver, à sortir des camps, ses cahiers ou ses petits carnets. Et il en résulte une œuvre impressionnante. Il a écrit plus de 70 ou 75 livres, Max Aube, du théâtre, de la poésie, des nouvelles, des récits, des romans. Et une grande partie de ces œuvres, si diverses, sont des œuvres de témoignage, effectivement. Des œuvres dans lesquelles il écrit l'histoire, il écrit pour témoigner, il écrit pour les générations futures, comme il l'écrivait. Hein. À plusieurs reprises, il a dit, même s'il n'y en a que quelques-uns, même si je n'ai que quelques lecteurs dans les générations futures, pour eux, j'écris tout cela. Et effectivement, l'œuvre de Max Aube est un mélange étonnant de fiction. Il invente des personnages, il invente des situations et d'histoire. Pour chaque livre écrit, notamment ses romans sur la guerre d'Espagne, il en écrit 6 qui forment un ensemble, les 6 campos. Eh bien, ces 6 campos sont un mélange de fiction, d'invention, mais aussi d'histoire très documentée. Il lit beaucoup, il réunit des témoignages, des documents écrits, etc. Et il les intègre, ces témoignages, dans son livre. Et donc, en lisant ces 6 campos, ces 6 romans, on traverse l'histoire de l'Espagne de 1931 à 1940-41 de manière remarquable, avec beaucoup d'éléments. Et pour lui, ça ne le gêne pas de mettre côte à côte des personnages inventés et puis des personnages historiques. Donc on trouve Azaña, le président de la République, on trouve Negrín, on trouve des diplomates, on trouve Álvarez de Vallejo, des ministres, etc. Et puis on trouve toute cette galerie de personnages qu'il invente. Et sa conviction, je peux dire, elle est en fait, elle découle de ce qui lui est arrivé. De toute façon, l'histoire, c'est une succession de situations où en fait, on est un peu inventé par l'histoire. On est modifié. Et il l'a bien vécu, lui, avec les rapports policiers qui ont inventé leur Max Aube. Et lui, il dit, c'est peut-être par la fiction qu'on approche un peu plus la complexité du réel. Quelquefois, un bon roman va peut-être permettre d'approcher davantage l'histoire qu'une suite de rapports soit administratifs, soit policiers, qui sont écrits dans des buts bien précis pour justifier un poste, pour charger quelqu'un parce qu'on veut l'enfermer la semaine suivante, parce que voilà, pour l'empêcher d'avoir accès au pays, etc. Donc là aussi, il y a des fictions qui s'écrivent. L'État aussi écrit des fictions, hein, quand il s'agit de contrôler, arrêter, empêcher, etc. Et il dit quelquefois un roman écrit avec tout l'authenticité dont on est porteur, l'envie de vérité, eh bien, un roman va peut-être plus servir la cause de la vérité que des rapports faits avec des buts, des arrière-pensées, etc. Ça, c'est une vraie conviction qu'il a portée toute sa vie. Et quand on lit, donc, et aujourd'hui, en France, si on ne lit pas l'espagnol, on peut quand même trouver à la fois des récits, comme le manuscrit Corbeau. On peut trouver le journal de Djelfa, en bilingue, en édition bilingue, traduit des poèmes traduits par Bernard Sicot. On peut trouver les six Campos en version française. Alors le premier, j'ai quelques réserves sur la traduction. Les autres, à mon avis, sont plus fidèles. Donc on peut lire Max Aub. Mais pas si facilement que ça, parce que ces livres ont eu des déboires divers et variés. Quelquefois, la maison d'édition est en difficulté ou même a disparu. À mon avis, Max Aub n'est pas encore disponible comme il devrait l'être. Parce que si on lit les Campos aujourd'hui, par exemple, on a vraiment un apport de première importance où à la fois on est informé et ému, et c'est à mon avis ce que doit faire un livre, c'est à la fois vous renseigner et vous émouvoir. Et bien pour ça, les livres de Max Aub sont vraiment d'une qualité très très grande. Donc, lisons Max Aub.
Vous venez d'entendre le deuxième épisode de Max Aub, l'exilé. La France où l'espoir trahit. Un documentaire sonore d'Agnès Gontier et de Sofia Riboloff. Extrait des écrits de Max Aub et des rapports de police tirés du livre Max Aub et la France où l'espoir trahit de Gérard Malga. Poème Enterrement auvernais, extrait des Diarios de Max Aub. Poème Tu pues déjà, Julian Castillo, extrait du livre Diario de Djelfa de Max Aub. Lecture des textes de Max Aub par Thomas Groulade. Merci aux nombreux anonymes qui ont enregistré la lettre de dénonciation. Lecture des rapports de police par Thomas Boquet, Mathieu Gallet, Eric Hay, Diego André, Christian Saint-Blanca et Nicolas Estevao. Sur les chemins de l'exil, une série documentaire de résonance sonore soutenue par la DRAC et la région Occitanie. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.